RMC, les grandes gueules.
Sujet de discussion à propos de ces attaques au couteau. En l'espace de deux jours, deux attaques au couteau et contre des policiers en plus. À La Rochelle, dans un commissariat, le fonctionnaire a été blessé. Le profil de l'homme, plutôt marginal, vivant chez sa mère, un taiseux, sans travail, décrit comme quelqu'un sans histoire, mais avec des tout petits antécédents, des petits faits de violence. Rien de grave, c'est-à-dire qu'il n'a pas été en prison pour ça, mais il avait quand même été signalé. On ne sait toujours pas pourquoi il est rentré dans ce commissariat avec ce couteau et qu'il a blessé le policier avant d'être maîtrisé. Et hier, à Bénifontaine, dans le Pas-de-Calais, intervention de police secours, et dès leur arrivée, pareil, un homme de 31 ans, schizo, présenté comme schizo, coup de couteau à la tempe contre le policier. Il a été blessé et hospitalisé, mais ses jours ne sont pas en danger. Je rappelle ce qui s'est passé à Gare du Nord en janvier. Un homme qui s'en est pris à 6 personnes, là aussi avec un couteau. Et il avait grièvement blessé un homme de 36 ans. Alors, bon nombre de policiers disent aujourd'hui, écoutez, on sait qu'on reçoit toutes sortes de populations dans les commissariats. Il faudrait mettre... Voilà. Alors, les commissariats modernes, Bruno, les plus récents, il y a des portiques.
Ouais,
là, il y a pas mal de tes collègues qui disent il faut mettre des portiques de sécurité, qu'on puisse faire toutes les palpations aussi nécessaires, parce que les attaques au couteau, maintenant, ça devient un vrai problème. Alors, est-ce que c'est la nouvelle menace qui nous inquiète? 32-16 pour en discuter avec les GG, Bruno.
La menace, elle existe depuis toujours, et ça me fait rappeler un moment d'émotion pour moi, parce que j'ai un de mes amis du RAID qui était parti en commissariat après être parti du RAID, qui est mort dans un commissariat. D'ailleurs, il a un gars qui est rentré avec une Kalachnikov qui l'a tué. Un policier du RAID, pourtant, qui est aguerri. Donc, on est à l'abri de rien dans ce métier, malheureusement. C'est vrai que les nouveaux commissariats sont beaucoup plus sécurisés, mais on se rend compte quand même que la violence des tarés qu'il y a dans cette société, parce qu'il y en a, que ce soit les schizos ou ce qu'on veut, ou les salafistes ou tout ce que vous voulez. Bref, il y a un paquet de tarés que les policiers prennent en pleine bille tous les jours. Il faut savoir qu'il y a plus que 4% de policiers qui ont été touchés cette année. C'est-à-dire plus de 15 000 policiers qui ont été impactés. C'est considérable, c'est la folie. Donc on est une société qui devient de plus en plus violente, malgré ce que peuvent penser certaines personnes. Et effectivement, les policiers sont les premiers, les plus vulnérables. Je pense aux policiers nationaux et aux policiers municipaux aussi. Au même titre, d'ailleurs,
que les policiers sont sur la voie publique, voilà. Parce que ce sont eux qui interviennent sur les cas les plus compliqués.
Exactement. Et le port du couteau est devenu quasiment classique. C'est terrible. Le nombre.
Et là, j'ai vu à Dijon, dans un collège, une histoire de Paris stupide. Il y a un gamin qui est venu avec un couteau et qui a blessé un autre de ses camarades. Je crois qu'ils avaient 15 ans.
On dit 8 jeunes sur 10, est-ce que c'est approuvé ou pas, je ne sais pas, qui ont des couteaux sur eux, peut-être pour se protéger, pas nécessairement pour attaquer. Donc ça fait peur, et qui se retrouve en face à chaque fois, ce sont nos policiers qui sont exposés.
Il y a une vraie menace aujourd'hui avec le couteau notre pays.
La menace, tu sais, Alain, elle est toujours prégnante depuis les attentats, depuis tout ce qu'on peut imaginer. Les policiers sont exposés en permanence à la menace et à la violence de certains individus. Donc il faut mettre tous les moyens possibles pour sécuriser, et malgré ça, malheureusement, on n'arrivera pas à avoir une
réponse. Barbara Lefebvre.
On est à 120 attaques au couteau par jour. Par jour.
Donc, évidemment, répertorié officiellement, source
oui,
ministère
oui,
de l'Intérieur.
Tout à fait. Et le couteau étant l'arme la plus facile à se procurer. Et forte inquiétude aussi sur l'usage des couteaux céramiques, à lame céramique, parce que ceux-là, ils sont indétectables.
Tu vois pas.
Y compris dans les aéroports, etc. Bon, alors évidemment, pas quand ils passent l'infrarouge, etc. Mais enfin, quand même.
Couteau ceinture, même.
Voilà. Sans parler d'autres instruments qui peuvent. Des choses en. Tu sais, des trucs en titane qui se cachent dans les brosses à cheveux. Enfin bon.
Y a un objet contendant comme ça, un stylo.
Oui. Voilà. Donc. Non, mais il faut vraiment s'inquiéter de cette recrudescence, bien sûr.
Et ça vient d'où?
Et par ailleurs, on sait qu'il y a une flambée de violence de toutes sortes. Moi, j'ai hâte. Mais moi, ce qui m'agace un petit peu, si vous voulez, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des attaques comme ça au couteau, très très vite, alors c'est le dingo de service, bon, ok. Puis finalement, quand on creuse un peu, il n'est pas si dingo que ça. Mais alors après, on l'oublie. C'est-à-dire que les chaînes info ne reviennent pas. Moi, j'aimerais qu'on revienne un mois après et qu'on nous dise alors on en est où ? Parce qu'il y a un certain nombre de dingos.
C'est-à-dire quel était son profil ?
Bah oui, j'aimerais
un mois
bien
après, est-ce qu'il a
le
parlé,
gars de la gare de Lyon, là, il est où en ce moment ?
Oui, c'est
est-ce
vrai.
Qu'il est à l'HP ? Est-ce qu'il est en chambre d'isolement ? Ou est-ce que finalement, ça va bien ? Parce que moi, je peux vous dire qu'il y a certains dossiers sur lesquels je sais que le gars va très, 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 très bien. Ou alors il est maintenu en chambre, je l'ai déjà dit, l'assassin de Sarah Halimi. Il est maintenu très artificiellement en hôpital psychiatrique parce qu'il y a une problématique vis-à-vis de l'opinion et que nous les avons à l'œil, c'est-à-dire que nous, on va surveiller, on a déjà surveillé à plusieurs reprises les autorisations de sortie et de promenade qu'a ce monsieur. Donc, ils savent très bien qu'on ne lâchera pas celui-là. Mais je peux vous dire qu'en réalité, sinon, il se baladerait. Et, alors que c'est un assassin extrêmement dangereux. Donc, vous avez toute une série d'affaires qui ne sont pas tellement suivis, je trouve, par les médias. Moi, j'aimerais bien que celui de la gare de Lyon continue à nous en parler, que celui de La Rochelle, parce qu'apparemment, monsieur ne veut pas parler, il est, doit être très timide, celui-là aussi.
Il a pris son droit au silence.
Oui, il est inactif.
Il a 21 ans, inactif, il vit avec sa mère qui est actuellement à l'étranger.
Oui, maman n'est pas là, donc il fait de la colocation pendant que maman n'est pas là, puis il s'ennuie toute la journée.
Donc c'est le coup du dingo mutique, c'est un peu facile.
Non, moi j'en ai ras-le-bol.
Les schizos, il y a un paquet de barjots.
J'en ai ras-le-bol. Je pense que pendant le Covid, il y a eu aussi des gens qui avaient effectivement des troubles qui ne sont pas des maladies mentales. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des troubles de la personnalité.
Oui.
Et là, je veux être bien claire, et j'entendais l'autre fois l'expert, M. Zaghuri, le dire, un trouble de la personnalité, ce n'est pas une maladie mentale. Mm-hmm. Donc il va falloir aussi que parfois les journalistes ou d'autres arrêtent avec « il est instable », etc. Les troubles de la personnalité qui ne sont pas suivis, qui ne sont pas cadrés, y compris éventuellement ponctuellement par des psychiatres, ce n'est pas de la maladie mentale, c'est des troubles de la personnalité liés à des tendances, soit à des carences éducatives, soit au fait que c'est des gens qui avaient une intolérance à la frustration et que comme on leur a pas mis de cadre et que la société non plus ne leur a pas mis de cadre, et ben après ça a été open bar et qu'aujourd'hui cannabis, alcool et compagnie, ça fait que les traits de personnalité qui posaient problème et qu'on aurait pu cadrer avec davantage de mesures éducatives par les parents et par la société n'ont pas été faites et donc à 20 ans, à 25 ans, eh ben ils sont en vrac. Voilà.
Justement, donc, tu as vu que celui de La Rochelle,
c'est des gens pas insérés
économiquement. Il n'y a pas eu de test stupéfiant négatif et alcool négatif.
Voilà. Et ces gens-là ne sont pas intégrés économiquement, professionnellement, socialement. Oui. Qu'est-ce qu'ils font?
Mais
ils font jamais rien.
Barbara.
Et ils ne sont pas forcément malades. Bon là, le schizophrène, c'est autre chose. Mais les autres, là, les coups de couteau, ils ne sont pas malades.
Barbara.
Ils ont des troubles de la personnalité. Et ça n'est pas de la maladie
mentale.
Donc ça
ne doit pas passer par bouffée délirante ou absence de...
Non mais grâce à de bons avocats...
Absence de discernement au moment
grâce à de bons avocats et certains juges d'instruction un peu laxistes.
Mais à ça, tu rajoutes ceux qui sont malades psychologiquement, les schizos, etc. Le problème, c'est que, est-ce qu'on a assez de psychiatres, de gens pour suivre ces gens-là? Ben, la réponse est non. C'est-à-dire, une fois que tu es passé dans les mains de la police, de la justice, et qu'au bout de la justice, on te dit, ben, il faut qu'ils soient traités, il n'y a plus personne pour prendre en charge ces gens-là.
Moi, je vais vous dire.
Et tu as tout un tas de bombes à retardement
qui sont sur la. Moi, c'est une affaire qui a été largement instrumentalisée, etc. Donc, ça me gêne d'en reparler. Mais moi, je repense souvent, j'aimerais savoir où on en est avec la personne qui a tué Lola, par exemple. Non, mais ça dure depuis combien de temps cette histoire?
On ne
sait pas ce qu'a donné son
expertise. Oui, mais on peut pas communiquer comme ça.
Psychiatrique,
la femme qui a tué Lola,
oui,
qui était sous OQTF.
Soi-disant, qui est folle, etc. Elle n'avait pas d'antécédent de ce genre. Donc moi, je dis, comment ça se fait qu'on n'a toujours pas de suite là-dessus?
Parce que la justice ne peut pas non plus communiquer sans arrêt sur des
dossiers. C'est quand ça l'arrange qu'elle communique, la justice. Hein.
Oui,
c'est quand ça l'arrange qu'elle en parle aux journalistes.
C'est un peu la réponse que
je... Et puis quand ça ne l'arrange pas parce que ça ne va pas bien dans ses idées, alors là, elle communique pas. Là, le secret de l'instruction, ça compte.
Pour une fois, je suis tout à fait d'accord avec Barbara. Ce qui se passe, c'est que maintenant, c'est devenu la mode de dire quand quelqu'un fait un attentat ou quand il tue au couteau quelqu'un, il te dit non, moi je suis fou, c'est pas moi, c'est de la folie. Et les avocats se mettent derrière ça pour cacher les véritables raisons. Il faut être beaucoup plus. Pour moi, il n'y a même pas. Quand il y a eu l'affaire de Lola, j'ai été ici conspué parce que j'ai dit il n'y a même pas besoin de faire analyse contre analyse, expertise contre expertise. Et ça va durer 4, 5, 6 ans d'instruction. Mmh. Ça va coûter un argent fou de juges, de tribunaux, de spécialistes en tout genre. La nana est une meurtrière, elle a tué. Voilà. Mais à un moment, tu es obligé d'avoir une procédure qui est très longue pour qu'au bout de 2 ans ou de 3 ans, le mec il puisse sortir en attendant son jugement, il retrouve sa liberté devant...
On va continuer d'en discuter là de ce qui s'est passé, ces deux attaques au couteau en l'espace de 36 heures, même pas à La Rochelle, dans le nord à Bellefontaine. À chaque fois, c'est deux policiers, mais comme le disait Barbara, combien d'attaques au couteau tous les jours?
120 par jour.
Allez, à tout de suite au 32-16.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story avec les grandes gueules, avec Bruno Pomard, l'ancien policier du raid, avec Mehdi Guézard, le chef d'entreprise, le patron de PME, et avec Barbara Lefebvre, la professeure d'histoire-géographie. On revient sur ce qui se passe. On a l'impression d'ailleurs que ça se passe une fois par semaine maintenant. Comme dit Barbara, il y a 120 attaques au couteau tous les jours.
3000 par mois, du coup.
Quand je dis une fois par semaine, c'est-à-dire des spectaculaires qui attirent notre attention. Et pendant qu'on discutait là, pendant la pub, je regardais vite fait comme ça quelques mails, quelques commentaires. Et il y a notamment une dame, Gina, qui me dit la peur qu'elle a aujourd'hui dans le métro, notamment dans le nord de Paris, avec tous les individus. Alors elle dit « troubles ». mais je comprends ce qu'elle veut dire dans le nord de Paris, c'est-à-dire toutes les personnes que l'on peut croiser, qui ont, qu'on entend pousser des cris, qu'on voit tout seul dans des coins, qui dans le métro se mettent à arpenter la rame de gauche à droite.
Des barjots.
Et voilà, c'est le problème, c'est qu'on dit ce sont des barjots. Et elle-même me disait, mais je me demande dans ces cas-là, est-ce qu'il n'aura pas un couteau dans la poche, est-ce qu'il ne va pas s'en prendre aux voyageurs si on lui fait une remarque, tu vois, si on lui dit monsieur arrêtez, monsieur poussez-vous, ou ceux qui sont allongés sur sur les bancs dans les gares et autres quoi. Tu vois, donc il y a une espèce,
c'est des ultra-violents potentiels à chaque.
Cette trouille qui commence à s'installer. Dans l'esprit
surtout,
de tout le monde.
Très, très agaçant, pour ne pas dire plus, c'est les gens qui, par ailleurs, te disent « Non, mais ça, on vit dans une société beaucoup plus apaisée. » Et en fait, c'est parce que, comme on vit dans une société apaisée, confortable, on est très réactif aux problématiques d'insécurité. Mais non, ce n'est pas vrai. Moi, je suis désolée. Je prenais le métro dans les années 80-90 et j'ai habité pendant longtemps dans le 19e. On n'était pas à ce niveau-là. Oui, de perception de la violence. Je veux dire, moi, quand je retourne des fois à Stalingrad, je veux dire, honnêtement, je ne veux plus prendre le métro et de faire un changement à Stalingrad aujourd'hui. Alors que je vous dis, j'y ai vécu pendant plus de 15 ans. Et donc, et à des 23 heures, je prenais le métro et je faisais la jonction à Stalingrad. Aujourd'hui, je ne le ferai plus. La situation s'est considérablement aggravée. Et parce qu'il y a des gens dont on ne s'occupe pas. Qu'on a laissé venir en France, je suis désolée, parce que pour certains sur Stalingrad, c'est des migrants qui, les pauvres, sont dans un état d'abandon complet et n'ont plus d'autre chose que de se tourner. Ben, je veux dire, mais moi, demain, on me fout comme ça dans un pays, j'ai rien. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse
à un moment donné ?
Tu as aussi, Barbara, la suractualité de tous ces faits aussi. Il y a certaines chaînes qui en balancent sans arrêt sur ces problématiques. Certes, tu as raison, il y a une montée de violence qui est considérable dans notre pays. On le voit encore une fois, 15 000 policiers blessés, c'est pas par hasard, il y a eu les éléments de les grandes manifestations. Mais quand tu vois les policiers d'ailleurs qui sont de plus en plus équipés, gilets pare-coups, des gants, souvent avec des gants, pour effectivement contrer un mec avec un couteau. Tout ça, ils ne le font pas juste pour la décoration. C'est pour se protéger eux-mêmes et pour pouvoir protéger les gens quand c'est nécessaire. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'actuellement, le niveau, je dirais, d'insécurité, alors ce n'est pas que le sentiment d'insécurité, parce que la sécurité, sentiment d'insécurité, tout ça est un peu instrumentalisé, je ne sais pas si c'est le terme, aussi par une surinformation. Moi, je le dis aussi, lorsqu'on parle des quartiers, par exemple, on dit, quand on parle de quartier, on parle trafic de stupes qui gangrène tout un quartier. OK. Le trafic de SUP, il concerne 150-200 personnes. Dans un quartier, il y a 10 000 personnes qui habitent. Alors effectivement, les 10 000 personnes qui habitent, eux, ne sont pas sécurisées. Mais tu vois, encore une fois, on extrapole, je dirais, ce problème de sécurité, qui sont réels, qui existent, c'est ce que je veux dire. Mais en même temps, il faut que les médias soient prudents.
Et nous sommes avec Hervé. Bonjour, Hervé. Hervé ?
Oui, bonjour tout le monde.
Bonjour Hervé. Bonjour. Quand vous entendez là, voilà, ce que l'on dit aujourd'hui, et puis avec ces attaques au couteau là, qui ont lieu en 48 heures, qu'est-ce que vous en dites Est-ce que ça vous inquiète ou pas Dites-moi.
Oui, c'est très très inquiétant parce qu'on a banalisé tout ça. Avant, on se battait avec les poings, maintenant, se battre avec un couteau, c'est devenu banal. Pourquoi on se battait avec des coups de poing. Voilà. On a autorisé ça. Et puis maintenant, sortir avec un couteau, je vous dis, vous prenez les jeunes, n'importe qui.
Vous le voyez autour de vous ?
Ben oui, moi je sais, les gens se battent avec des couteaux, bien sûr. Des opinels, des trucs, bien sûr. C'est... Pour eux, avant, il y avait la bombe à lacrymogène, avant. Donc les gens se battaient avec la bombe à lacrymogène, maintenant, c'est avec des couteaux. Et ça s'est banalisé. Toutes les histoires qu'il y a, les gens, ils mettent des coups de couteau, ils rentrent.
Pas nécessairement pour attaquer, hein, c'est pour se protéger, certainement.
Se protéger, quand tu t'insultes, tu vas pas sortir le couteau d'entrée et planter la personne. Il y en a qui le font, ça.
Évidemment.
Ou un regard de travers, qu'est-ce que tu as, ou on te refuse une cigarette. Voilà, si tu sors avec. Moi, je dis que si tu sors avec un couteau, c'est que tu vas t'en servir. Voilà, et si tu es susceptible de t'en servir, et voilà. Et donc après, il y a des gens qui sont plus ou moins, qui se contrôlent plus ou moins bien, et c'est très dangereux. Dans 15 ans, dans 20 ans, ça va être le calibre bientôt. Ça va être banalisé comme le couteau est banalisé aujourd'hui. Parce qu'on trouve toujours des gens, maintenant on retrouve des excuses, la folie, pas la folie. Moi, par rapport à ça,
Quelqu'un qui rentre dans un commissariat, qui frappe comme ça au jugé, ou quelqu'un qui est garde du Nord, qui descend comme ça, qui frappe au jugé, qui plaise grièvement sans qu'on sache la motivation, ça s'interroge. Alors Barbara demande à ce qu'il y ait un suivi, c'est vrai, pour savoir précisément quelles sont ses motivations, un peu plus à froid, mais on se dit qu'on a quand même des drôles de personnages et de personnalités aujourd'hui qui se baladent dans les rues. Et moi, je suis le premier à m'inquiéter quand des fois je prends le métro tard le soir, en me disant putain, le type qui est au bout du quai, qui pousse des cris, s'il vient vers moi, qu'est-ce que je fais, quoi. Voilà.
Moi, en ligne, là, en 93 ans, on m'a demandé qu'est-ce que je proposais par rapport à ça. Alors, moi, avant de décréter quelqu'un de fou, absolument, moi, je propose qu'on l'enferme directement en prison et que le temps de la procédure de savoir s'il est fou, qu'il reste en prison. De toute façon, il a mis des coups de couteau.
La présomption d'innocence, oui, suivant
Non, non, mais il a mis des coups de couteau. Quand tu mets des coups de couteau, c'est innocent.
Non,
tu mets des coups de couteau, tu rentres en prison, on fait des analyses psychiatriques, et si elle dure un an, et ben tu restes en prison, si elle dure deux ans, et ben tu restes en prison. Si tu es déclaré irresponsable, tu as quand même mis du couteau.
Ouais, alors, voilà, c'est ça le problème. C'est celui de l'irresponsabilité. Il faut quand même reconnaître qu'un type qui sort comme ça avec un couteau, qui rentre dans un commissariat, qui met des coups de couteau sans motivation apparente ou garde du Nord, on va se dire il est quand même pas net. Donc on va peut-être aller vers le problème psychiatrique ou psychologique.
Le problème, c'est qu'en prison, tu as 75 000 personnes et qu'elles sont saturées et que la moitié sont en attente de jugement. Donc,
allez-y, je vais vous dire quelque chose. Moi, dans mon parcours de vie, là, j'étais incarcéré plusieurs fois. Il fut une époque où il y avait des SMPR en prison. Mmh. C'est-à-dire que c'était des unités pour les fatigués. Des fous, comme vous dites. On les mettait là en attendant. Donc, on les voyait, ils restaient. Elles ont été enlevées. On les a plus. Il n'y a plus ces unités-là.
Exact.
Ça n'existe plus. Et moi, quelqu'un qui a mis un coup de couteau, qu'il soit irresponsable ou responsable, il faut qu'il soit être enfermé au placard. Et s'il est responsable, dans un hôpital,
il doit être enfermé. Et c'est un ancien mec qui était au placard qui te dit ça. C'est lui qui a la voix de la raison.
Non, mais attendez. Et s'il est irresponsable,
il sera enfermé. Hôpital psychiatrique.
Tu n'en vois pas un hôpital psychiatrique. Et surtout, le temps de la procédure qui est très longue pour savoir un an, deux ans, trois ans, eh bien, il est fait au placard. Il est fait enfermé.
Merci, monsieur.
Merci de votre sagesse, monsieur. Parce que tout ça repose sur un droit qui est un droit absolu et constitutionnel. Et qui est même affirmé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, c'est que l'État a pour charge de protéger les citoyens. C'est-à-dire que l'État, la première des obligations de l'État, c'est de protéger l'ordre public, de protéger ses citoyens. Quand l'État se met en situation soit d'avoir un système psychiatrique, soit d'avoir un système pénitentiaire qui dysfonctionne, c'est l'État qui est responsable, c'est l'État qui met en danger l'ensemble de la population. Je suis désolée, monsieur Macron nous avait dit je vais construire 150 000 places de prison, d'accord ? Il avait dit en 15 000 places de prison en 2022, pour la fin de son premier quinquennat. Tu parles, je crois qu'il n'y en a eu même pas 2000.
Parce qu'à chaque fois qu'il y a une prison qui veut être installée, il y a un recours qui est intenté contre la prison qui vient à proximité. Allez-y, Hervé, pardon.
Je connais votre amour, madame, je connais votre amour déclaré pour Macron, mais à un moment donné, c'est pas de Macron, on a 30 ans de retard.
Bien sûr.
Voilà. Mais d'accord, sauf que lui, il n'a pas rattrapé les choses.
Non, mais d'autres en ont proposé aussi de construire des places de prison. Oui. Donc voilà, vous les métros, vous, Macron. Donc c'est trop débordant. C'était la Saint-Valentin hier, vous l'avez fait la déclaration d'amour aujourd'hui pour lui. Je comprends.
Hervé, moi je suis d'accord avec vous. Sarkozy, il n'a pas fait mieux. Sarkozy, il a même fait pire.
Hollande a supprimé des flics.
Hollande n'a pas fait mieux. Je dis simplement, monsieur Macron a promis quelque chose, il ne l'a pas fait. Les autres, au moins, ils n'ont rien promis, ils ont tout détruit.
Mais ce que je veux vous dire, c'est que maintenant, même, c'est un problème de justice. On met des gens en prison, il y a des gens, les prisons sont surpeuplées, il y a des gens qui font des escroqueries, par exemple. Ils sont incarcérés immédiatement avec femmes, enfants, travail, ceci, cela. Cela n'a rien à faire en prison, mais dans le contrôle judiciaire. Et le mec qui met des coups de couteau, tu le laisses dehors. Le mec qui agresse les gens, qui agresse le docteur de 80 ans, tu le laisses dehors.
C'est sûr, un chéquier volé, ça mérite juste un bracelet électronique, tu rentres chez toi.
Alors, il faut savoir quand même, moi, je l'ai vu hier, tu vois, il y avait le match au PSG, j'ai un de mes jeunes qui m'a appelé là, qui a eu un souci avec la police, parce qu'à l'entrée, il avait un couteau porte-clés sur ses clés.
C'est pas très malin quand même, au moment où tu passes
dans un
contrôle. Il y en avait 10 comme ça qui étaient en garde à vue, le juge direct les a mis en examen, garde à vue, ils sont encore en garde à vue aujourd'hui. Bon, il m'a appelé, j'ai eu l'OPJ en ligne. Évidemment, je ne peux rien dire pour lui dire tout simplement la garantie, parce que c'est un gars bien, je le sais. Et le mec, il m'a dit, tu verrais mon couteau, c'est un petit canif comme ça, attaché à des clés. Donc ça veut dire que quand même, la police fait gaffe à tout ça et sanctionne. Alors, est-ce que ça va aller loin après? Non, parce que les profils ne sont pas dangereux, mais quand même, arrêtons de nous balader avec des couteaux, il faut le dire à tous nos...
Tu fouilles? Comment tu sais qu'une personne a un couteau ou pas?
Ils ont été fouillés, là.
Il a été fouillé parce qu'il était à l'entrée d'un...
Le dire, c'est simplement... Les gens prennent des couteaux, pas pour... t'attaquer nécessairement. Parce qu'ils ont peur. Ils se disent, putain, si je tombe en face d'un mec qui a un couteau.
Enfin, moi, celui de la gare de Lyon, il n'avait pas peur.
Non, mais celui qui rentrait dans le commissariat, il avait pas, c'était pas oui. pour se protéger non plus.
Non,
quoi.
Mais t'as des gens qui le font. Des jeunes qui le font, ça.
Tellement ils ont peur. Pour un fou, ils vont le laisser en hôpital psychiatrique pendant 1 an, 2 ans. Après, ils vont lui dire, non, tu peux sortir. Tu peux sortir, il y a trop de monde, il n'y a pas assez de place. Tu peux sortir, ça, il est guéri.
Pendant les JO, on manque de services de sécurité, de forces de l'ordre.
Si jamais on a une flambée de folie pendant les JO, ça va être joli.
Il va y avoir du monde.
Hervé, merci d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une bonne journée.
Merci Hervé.
À bientôt dans les GG. À bientôt. Courage, Hervé. Hervé du côté de Marseille.